BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous, 20h01 en ce mardi soir, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct à la radio, à la télé comme chaque soir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne, 90 minutes de tech, vous le savez, du lundi au jeudi. Eh bien écoutez, on attaque tout de suite avec le sommaire, vous allez voir encore une émission passionnante. On va évoquer le cas Elon Musk ce soir, entrepreneur génial, parfois aussi un peu décrié. Eh bien écoutez, un confrère journaliste a sorti un bouquin ou va sortir un bouquin sur lui, on va en parler dans un instant dans le débrief. TikTok aussi, encore dans la tourmente, puisque paraîtrait-il qu'il y a toujours des connexions entre la Chine et TikTok, en tout cas aux États-Unis. On fera le point là-dessus. Et puis, on fêtera les 5 ans du GIGN et vous verrez que ce groupe d'intervention incroyable est éminemment connecté à la tech. On recevra le commandant du GIGN tout à l'heure entre 21h et 21h30. Voilà le menu de Tech & Co, la quotidienne. Encore merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Une heure de débrief de tech, c'est comme ça tous les soirs, vous le savez, 20h-21h avec nos experts qui sont là, des voix et des visages que vous connaissez, Christophe Holnet.
Salut. Bonsoir, Christophe. Bonsoir.
Ravi de te retrouver. On voit que la French Riviera est passée par là avec ce teint quand même. Allez, hein, mon cher Christophe.
C'est pas avec le temps parisien, là.
Ça, c'est certain. Senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. À tes côtés, Salim Assad, qu'on est très heureux de retrouver. Salut, bonsoir, Salim. Bonsoir. Associé chez Newfound. Rappelons-le.
Newfound, fonds de venture capital qui investit des tickets en amorçage dans les startups.
Très bien, avec quelques belles réussites quand même à la clé. Hein.
Voilà. Dont Aircall, il y en a beaucoup.
Il y en a quand même quelques-unes. Et vous connaissez Salim, puisque de temps en temps, il vient dans Tech & Co pour commenter l'actu. Et Boris Mananti nous a rejoint. Salut Boris.
Bonjour.
Et voilà un nouveau visage. Et voilà une nouvelle voix. En tous les cas, sur BFM Business, puisque monsieur a déjà fait de la radio et de la télé. Bienvenue Boris, rédacteur en chef du service économie du Nouvel Obs, qu'on ne présente pas, spécialiste des nouvelles technologies et auteur de livres. Je crois qu'il y a quelques temps de cela, tu avais commis un livre avec une consoeur à toi sur le danger des portables et des ados, sujet qui revient d'actualité tout le temps, en fait, qui ne s'arrête jamais.
Ça n'arrête pas. On en parlera avec TikTok. Oui.
Voilà, c'est ça, exactement. Et là, tu t'apprêtes à sortir le 2 mai prochain ce livre, donc, paru aux éditions du Rocher, Elon Musk, le bonimenteur. Alors, on va en profiter puisque Boris a planché sur Elon Musk. Alors, nous, on parle beaucoup de lui. Et c'est intéressant de que tu sois avec nous parce que je propose que dans cette demi-heure-là, on revienne un petit peu sur le parcours d'Elon Musk et un petit peu ce qui t'a motivé à écrire ce bouquin. Et puis, l'actualité qui nous rattrape, on va en parler tout à l'heure. Vous savez que Elon Musk aimerait gagner un peu plus d'argent avec Twitter. Et là, l'idée, c'est de faire payer les nouveaux utilisateurs qui arrivent sur Twitter. Alors, son excuse, c'est pour éviter d'avoir des bots, parce qu'il fait la chasse aux bots. Mais bon, c'est aussi pour gagner un petit peu d'argent quand même. Pourquoi un livre sur Elon Musk ?
Pourquoi ? Le cheminement est assez simple. Elon Musk.
Parce que c'est pas le premier livre et ça sera sans doute pas le dernier en plus. Hein. Non,
il y en aura une pléthore d'autres certainement. Elon Musk est toujours un peu vanté comme celui qui révolutionne tout. Tout ce qui touche, c'est révolutionnaire. L'internet, la banque en ligne, l'aéronautique avec SpaceX.
Bien sûr. Les voitures électriques.
Les voitures électriques avec Tesla. Plus récemment, Neuralink avec les implants cérébraux. Il y avait un narratif comme ça qui s'imposait un petit peu. C'est aussi l'homme le plus riche du monde. Ils se battent un peu pour le titre avec Bernard Arnault. Sauf quand on creuse un petit peu son histoire, ses éléments biographiques, mais aussi un petit peu tout ce qui se passe à chaque fois qu'il fait une grande promesse, une grande annonce, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas toujours très net. Et en creusant, en fait, j'étais curieux de découvrir la réalité derrière ce personnage, qui est assez double, assez faux, et qui réinvente en permanence son histoire, qui réécrit son histoire, qui se modèle un peu son personnage.
Donc c'est plutôt un bouquin à charge ?
C'est plutôt un bouquin à charge.
D'accord.
C'est un portrait plutôt sans concession.
Oui. Ok. J'imagine que ça ne doit pas être très facile d'enquêter sur Elon Musk. Comment on s'y prend aujourd'hui pour enquêter sur un gars qui est une méga star ? C'est une rockstar, Elon Musk.
Oui, oui.
Y a des gens qui parlent, qui l'ont connu.
Il y a des gens, disons qu'il y a eu un avant après Twitter, je dirais. Il y a eu, parce que moi j'ai commencé bien avant le rachat de Twitter, à creuser un petit peu, et alors là il y avait beaucoup de portes fermées, et il y avait un peu ce qu'on dit en journalisme du off. Ouais. Des propos qui ne peuvent pas être cités ou pas sourcés. Donc c'était très, très prudent au début. Avec le rachat de Twitter et quand il débarque chez Twitter avec son évier qui l'enfonce toutes les portes et qui se met à licencier un peu à tour de bras et se la joue un peu caïd, mais aussi où on comprend que son comportement erratique révèle qu'il n'a pas vraiment de stratégie pour le réseau social et ça périclite un petit peu.
Oui, combien de fois il a lancé des trucs qu'il a après annulé, enfin les...
Je pense que son vrai visage est un peu plus apparu à ce moment-là. C'est le moment où il s'est de plus en plus engagé politiquement. Il le faisait de manière plus discrète avant, mais là, il assume complètement ses positions. Très conservateur, très autoritaire, très d'extrême droite, en fait. Et en ce moment, très pro-Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine.
Même s'il n'a pas avoué ouvertement qu'il était pro-Trump, hein, mais il laisse planer...
La précédente élection, il le soutenait, ouais, catégoriquement. Là, c'est un peu plus flou. Il soutenait Ron DeSantis, le gouverneur de Californie, qui s'est retiré au profit de Donald Trump.
D'accord.
Et toutes ses positions, sur son compte à lui, il ne fait que de parler de migrants. On sent qu'il suit un peu le discours ambiant des républicains.
Tu parlais tout à l'heure de zone sombre d'Elon Musk. C'est quoi ces traits de caractère qui reviennent régulièrement quand tu interroges des gens qui l'ont connu ?
Il y a le comportement très autoritaire, très dur, très rude, très froid. Un manque total d'empathie en tant que patron, par exemple. On l'a vu licencier, là encore, il vient d'annoncer des licenciements chez Tesla, c'est par un simple email que c'est
10%,
que
10% des effectifs.
Ouais, ça va être beaucoup de monde licencié. C'est assez brutal comme méthode de management. Ça revient beaucoup. Si on va sur du un peu plus perso, on me l'a décrit comme assez près de ses sous. Oui, paradoxalement, hein, l'homme le plus riche du monde est assez près de ses sous. Et quand il fait des dîners avec ses lieutenants, c'est implicite que c'est eux qui doivent payer et l'inviter systématiquement.
C'est dingue ça. Ça, c'est un trait de caractère que je ne connaissais pas.
Voilà. Il y a beaucoup de dettes maintenant.
Oui, c'est pour ça. Ben oui, il a quelques milliards de découverts.
Il a quelques milliards de découverts, mais bon, il a des actions qui sont quand même bien valorisées aussi à côté.
Voilà. Et puis, comme tu disais, hein, il est souvent qualifié comme étant l'homme le plus riche du monde.
Exactement. Hein. Et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec son père qui, lui, a une lecture de son fils comme quelqu'un qui est dans la séduction. Dans la séduction permanente, qui a des problèmes avec ça, de séduction, il a des frustrations liées à l'enfance, à l'adolescence, et que c'est un séducteur.
D'accord. Et ça fait partie de son... En fait, sa séduction, c'est aussi un pouvoir de charmer, en fait, peut-être de nouveaux ingénieurs ou de nouveaux CEO pour, grossir son équipe. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les boîtes qu'il a, il a intérêt à convaincre les meilleurs managers.
Et, évidemment. Après, c'est un intérêt qui est un peu trouble, puisqu'il sait très très bien en jouer. Il sait très très bien être dans une mécanique d'être toujours dans la promesse d'après. Là, on le voit, Tesla va pas très bien, annonce des licenciements. Le cours de bourse, depuis le début de l'année, baisse de quasiment un tiers. Il est toujours dans l'annonce d'après. Là, il nous fait la grande promesse qu'au mois d'août, on aura des robots taxis. Un peu sur le modèle des voitures de Google qui sont à San Francisco. On est toujours dans la promesse d'après, même si elle ne se réalise pas.
Oui, c'est vrai que ça fait des années que Elon Musk promet des véhicules autonomes et ça n'arrive pas. Tu te doutais un petit peu de ce double visage d'Elon Musk, à la fois donc génie incontesté, parce que là, on appuie où ça fait mal, mais malgré tout, c'est un gars qui révolutionne la société avec l'espace, avec les véhicules électriques. Ce que tu dis dans ton livre, c'est que souvent il pique les idées aux autres.
Voilà.
Mais après, c'est lui qui les exécute. Donc
voilà. On peut
Steve
tempérer
Jobs,
certains aspects du côté génial. Tesla, on dit toujours Tesla, il a révolutionné la voiture électrique en créant Tesla. Il est important de rappeler que c'est pas lui qui crée Tesla, c'est pas lui qui a l'idée de départ. C'est deux ingénieurs qui développent cette idée-là, qui bâtissent le premier modèle et ils frappent à la porte d'Elon Musk pour les financer, tout simplement. Et c'est vraiment le premier actionnaire à l'origine.
Après il a eu du nez.
Après, il a du nez.
Et l'idée, c'est jamais plus compliqué, en réalité.
Ouais.
L'exécution, enfin, en tout cas, nous, dans la position d'investisseur, on n'est jamais à rechercher celui qui a la meilleure idée, celui qui est capable de l'exécuter.
C'est ça.
Il
n'y
a rien de plus commun que des gens qui ont de bonnes idées.
Et c'est un bon exécuteur, on va dire.
C'est quelqu'un qui a révolutionné la manière d'exécuter de bonnes idées.
Je ne sais pas. Je suis pas sûr.
Vas-y, Christophe.
Je ne suis pas certain. En fait, moi, ce que je sens chez Elon Musk, c'est effectivement une tout en étant une personnalité extrêmement forte, froide, etc., aussi une certaine fragilité, probablement, qu'on sent qu'il y a une faille quelque part, qui a probablement été un moteur pour lui. Alors, c'est peut-être cette séduction.
Oui, oui. Après, on le dit.
Tout le monde a des failles, il en a aussi.
On le dit autiste léger, c'est vrai, c'est un Asperger.
Il l'a revendiqué dans une émission humoristique, le Saturday Night Live.
Oui.
Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est difficile à dire à quel point il joue un peu du cliché du geek autiste sympathique, des shiny hippies, comme disent les Américains dans la Silicon Valley, qui sont en quête de ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Pour autant, il s'est jamais positionné en faveur des troubles autistiques et en soutien des troubles autistiques de quelque façon que ce soit.
Oui, Christophe.
Ce qui est sûr, c'est qu'il a quelque chose que j'admire beaucoup chez les entrepreneurs, c'est cette foi. FOI, toi, cette volonté parfois de dire je veux pas savoir si c'est possible ou pas, voilà la vision, je l'annonce, je sais l'exprimer et je suis
avec
capable,
brutalité parfois.
Je suis capable d'entraîner, de lever des fonds, je suis capable d'entraîner, je suis capable de me mettre en danger. Il a été plusieurs fois, il a été plusieurs fois au bord de la banqueroute, de la faillite, bien il sûr. S'en est sorti. Enfin, il faut quand même avoir une solidité en soi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement fort. Après, mais je pense que c'est un problème en tant qu'investisseur, c'est quelque chose qu'on attend, mais on attend aussi une capacité à s'entourer, une capacité à exécuter et une capacité à pouvoir faire des pivots lorsque c'est nécessaire, ne pas être omnibulé par une idée. Il faut à la fois être très ambitieux et accrocheur, mais être capable de pouvoir avoir une agilité et pouvoir bouger. Ouais. Et de ce point de vue, je pense qu'il a été plutôt bien. Ce qui est, enfin, plutôt dans. Il a plutôt répondu à ces critères. Après, il s'est lancé dans 4 ou 5 aventures dont on sent qu'il y a probablement un schéma global qu'il a en tête.
Mais, des connexions
entre Starlink, Neuralink, Tesla, SpaceX, X. Bon. Il y a certainement une vision globale, mais elle n'est pas extrêmement claire. Et l'impression qu'il me donne, moi, c'est ces gens qui ont des assiettes tournantes. Il en a 5, il passe de l'une, ça tourne, il va à l'autre.
Et
on se demande si à un moment,
il n'y a pas les assiettes
qui
vont tomber.
Il y en a pas une qui va se casser la figure.
Oui, c'est clair. Salim.
Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de résilience chez Elon Musk. Nous, quand on regarde des dossiers, il y a 2-3 choses qu'on regarde en priorité. Enfin, évidemment, ça n'a rien à voir comparé des startups avec Elon Musk, mais ça me fait penser à la manière dont on travaille au quotidien. Est-ce que l'entrepreneur est résilient? Est-ce qu'il a capacité à lever des fonds? Parce que le but dans une belle startup ou une aventure qui va bien marcher, c'est d'aller réussir à lever le tour d'après et être capable de se financer. Et est-ce qu'il va être capable de recruter les meilleurs talents? Parce que c'est pas lui qui va faire la boîte, c'est les talents qu'il va être capable de recruter. Donc il lui faut cet aspect un peu dragueur, un peu séducteur, etc., pour attirer les meilleurs talents. Il lui faut cet aspect séducteur pour attirer les investisseurs. Et évidemment, la résilience, c'est la chose numéro un, comme tu l'as dit. Tesla, je crois, je crois que c'était décembre 2008 ou à Noël 2008, il est passé à une. Enfin, ce qu'il raconte, je ne sais pas si c'est vrai, tu diras si effectivement c'est vrai ou pas, quelques heures de la banqueroute avant l'investissement de Daimler, est-ce que c'est vrai ou pas. Maintenant, il y a quelque chose qui est différent chez Elon Musk, c'est que les gens continuent de lui faire confiance. Comparé à ce qu'on aurait fait nous, alors qu'il gère 5, 6, 7 sociétés différentes.
Ouais.
Nous, quand on investit dans un entrepreneur, on lui dit attends, il faut qu'elle dise à 100%
humainement, dans c'est ta impossible. Société. Ouais.
Et aujourd'hui, sur des sociétés qui pèsent plusieurs milliards, SpaceX, Tesla, Neuralink, Twitter, etc., c'est juste exceptionnel.
Mais après, Boris, est-ce qu'il incarne ces sociétés, pardon, mais c'est pas lui qui exécute, c'est pas possible.
Il y a des choses qu'il exécute lui et il a des idées un peu en tête, il est obnubilé par certaines idées.
Aussi parfois, bien pour Tesla, pour X,
qui peuvent
pour
être assez mauvaises. Si je prends un exemple, il a bien imposé chez Tesla la mise à jour de la voiture régulièrement à distance, qui ça, permet de développer les capacités.
Ça, c'est une bonne idée.
Mais il en abuse énormément. Par exemple, il sort le nouveau modèle S, il se dit, les pneus, ça serait mieux s'il faisait, je crois que c'est 3 mm de plus. Pourquoi? Personne ne le sait. Il trouve que c'est plus joli. Elle est lancée comme ça. Résultat, pendant 6 mois, il n'y a plus d'ABS sur la voiture.
Parce que les pneus n'étaient plus compatibles avec l'ABS.
Et
là, ça, il s'en fout.
C'est-à-dire que pour lui, on fait une mise à jour plus tard.
Voilà. C'est-à-dire pour lui, c'est le design de la voiture qui était le plus important et non pas la sécurité.
Et non pas la sécurité.
Waouh. C'est étonnant.
Ou c'était plutôt un exemple d'une lubie de...
Ça, c'est clairement une lubie. Après, sur ce qu'on se disait...
Ça fait penser à Steve Jobs, excuse-moi, je te coupe.
Mais beaucoup de...
Alors, pas dans les voitures, mais dans les iPhones, on sait qu'il avait une passion maladive du détail, Elon Musk. Oui. Et simplement parce qu'il y avait un petit truc qui lui plaisait pas sur un bord arrondi d'un iPhone. Il renvoyait tout bouler. Et même si il y en avait des dizaines de milliers qui avaient été commencés à être fabriqués, ça recommençait, quoi, en fait. Ça fait penser un peu à ce trait de caractère, je trouve.
Après, moi, je voulais juste rebondir sur l'idée d'un plan global. Moi, je suis pas du tout sûr qu'il y ait un plan global. Et je pense plutôt que ces dernières années, il a une ambition très, une vision très politique d'un modèle du monde qu'il entend appliquer. Si je prends le cas de l'Hyperloop, on a beaucoup parlé de ce train dans un tube qui relierait très rapidement les villes. À l'époque, c'était San Francisco, Los Angeles, en un quart d'heure, quelque chose comme ça. Ça, on sait que c'est une idée qu'il a complètement copiée. 6 mois plus tôt, une start-up vient, lui propose exactement ça. Il leur dit, pas de problème, je vais peut-être investir chez vous. On revenait plus tard travailler un peu ça. 6 mois après, il annonce son projet à lui qui est exactement le même. Et il l'a un peu plus ou moins avoué qu'il n'avait pas du tout l'ambition de le créer. Il voulait juste faire parler de ça pour contrecarrer le plan de TGV entre San Francisco et Los Angeles.
Et en plus, il n'a même pas mis d'argent dans ce projet-là, je crois.
Il n'a pas mis d'argent.
Il a confié à d'autres investisseurs qui se sont cassés la figure.
Et pourquoi il fait ça ? Parce que la Californie, c'est quasiment un quart des ventes de Tesla aux États-Unis.
Ah oui, d'accord.
Mais est-ce que finalement, effectivement, il semble vouloir répondre à un dessein politique. Est-ce que, de ce point de vue, X, Twitter, est un formidable outil. Est-ce que c'est finalement pas l'activité de trop par rapport à ce qu'il avait déjà ?
Il y a des chances que complètement. Parce que déjà, ça révèle un peu plus son vrai visage. Et il a reconnu publiquement qu'il a acheté Twitter, qui est devenu X, dans le but de lutter contre le virus woke.
Oui, parce que ça, c'est sa bête de guerre.
Oui. C'est devenu sa bête de guerre. Ouais. C'est vraiment le progressisme dans tous les sens du terme, et en particulier aux États-Unis, avec les droits des mouvements LGBT, des mouvements Black Lives Matter et autres. C'est devenu complètement sa bête noire. Lui, il veut incarner une vision rétrograde. Il veut que toute l'extrême droite, même la plus crasse, puisse s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'il a fait en rachetant Twitter.
Ouais, c'est vrai que sa vision initiale, enfin, en tout cas moi j'étais plus fan de Elon Musk d'avant, avec une vision commune, on va aller sur Mars et tout concocté dans l'histoire qu'il racontait, SpaceX avec SpaceX pour aller sur Mars, Starlink pour avoir du réseau partout,
l'internet
partout
au débit.
Sur la Terre.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Starlink, mais c'est aussi une
belle Tesla potentiellement pour pouvoir avoir des véhicules électriques dans n'importe quelle planète, etc. Il y avait une espèce de cohérence dans l'histoire qu'il racontait, et aujourd'hui on le voit basculer vers un côté plus financier, plus politique. Moins ingénieur, moins Tony Stark, moins Iron Man, j'ai envie de dire, de ce côté, j'aimais beaucoup.
Oui, il s'est fait rattraper par la patrouille des réseaux sociaux, finalement. Et on se rend compte que c'est un autre métier. On ne gère pas un réseau social comme Twitter, comme Tesla ou SpaceX.
C'est vraiment pas.
Je crois aussi qu'il y a un autre élément, c'est que, notamment, je fais référence à ce titre, le bonimenteur. Bon, c'est un peu péjoratif, mais ils ont cette capacité à pouvoir vendre du rêve, etc. C'est des choses qui étaient probablement extrêmement valorisées jusqu'à il y a 2-3 ans. Maintenant, on a beaucoup plus besoin de dirigeants qui serrent les boulons. La dette est plus chère. Il y a l'inflation. Il faut avoir l'œil sur le cash. Et on peut pas juste s'en sortir en disant je vais relever des fonds à nouveau parce que ça va être plus compliqué. Et donc, il y a aussi un contexte global qui fait que pour les voitures électriques, il y a ce fameux hiver de la voiture électrique qui est annoncé. Vous en parliez dans l'émission hier. Longuement. Donc c'est un vrai challenge. Le problème de Tesla en Chine également, où il risque de se prendre comme Apple un backlash, y compris pour des raisons géopolitiques. Donc il a beaucoup de sujets qui nécessiteraient une focalisation dans l'excellence d'exécution, d'aller rechercher de l'efficacité opérationnelle et peut-être un peu moins de flamboyance.
Alors, je vous invite, on poursuivra la discussion, mais j'aimerais qu'on enchaîne sur l'actu du jour concernant Twitter, parce que le temps passe. On pourrait faire une heure, voire deux heures sur Elon Musk, finalement. Mais...
Voir tout un livre.
Voir tout un livre. Bien joué, Boris. Il est pas mal, hein, quand même. Hein, on va le garder. Et donc, Elon Musk a annoncé des petits frais supplémentaires dans un message publié, c'était hier, sur X. Donc, il a annoncé que les nouveaux utilisateurs du réseau social devront bientôt payer pour publier sur la plateforme. Alors, la raison invoquée, j'imagine que tu as suivi cette histoire-là, ouais, hein, ouais. C'est qu'aujourd'hui, Twitter est envahi par les bots, et les bots arrivent à détecter en fait tous les CAPTCHA, etc., etc., grâce à l'intelligence artificielle. Et il se dit qu'en payant, on va s'affranchir de la plupart des bots. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que les bots, c'est un peu une zone d'alerte pour Elon Musk, puisque c'est un peu sa bonne excuse depuis le début, dès qu'il parle de Twitter.
Parce que ça fait un an,
il veut le racheter, etc. Voilà. Il parle tout le temps de bots. C'est un peu flou. Et depuis le rachat, on commence à avoir un peu de passif. Je ne sais pas vous, en tant qu'utilisateur, moi, je vois toujours autant de bots. Il y en a, c'est un vrai problème pour le réseau social, mais il y en a toujours autant. Je pense qu'il avait sa grande idée de faire payer les utilisateurs avec la petite coche bleue, les utilisateurs vérifiés. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Il a complètement sous-estimé le poids des annonceurs. C'est une entreprise qui fonctionne avec ses annonceurs. Il a été quand même jusqu'à insulter des annonceurs. Et là, il se rend compte qu'il faut faut faire rentrer de l'argent. Donc, il tente une nouvelle option. Est-ce qu'elle va marcher ? Ça me paraît un peu aventureux.
Ouais. Et puis, c'est vrai qu'un réseau social, faire payer de nouveaux utilisateurs, comment et combien ? Alors, on parle de $1 par an, enfin, de toutes petites sommes, mais malgré tout, quoi. Est-ce qu'on a envie de donner son numéro de carte bancaire à X ? Je suis pas sûr. Ce qui est intéressant quand on évoque ces bots, c'est que, je sais pas si vous connaissez une boîte qui est Imperva, qui est une des filiales du groupe Thales, qui est spécialiste de la sécurité informatique, vient de publier, en fait, un rapport 2024. Principal enseignement, c'est la montée en puissance justement inexorable des bots. Alors pas que sur X et sur Twitter, partout en fait, des bots malveillants, ces logiciels automatisés qui sont capables de faire de gros débats. Écoutez les explications de Jean-Baptiste Huette et on revient juste après sur ce sujet.
Piratage de comptes utilisateurs, récupération de données sensibles, blocage des sites internet par déni de service, spam. L'an dernier, la part du trafic des bots malveillants, ces programmes informatiques retors, a atteint 32%. Dans le détail, c'est en Irlande où la situation est la plus critique, avec 71% du trafic internet utilisé par ces robots malveillants, suivi de l'Allemagne, un peu plus de 67%, et du Mexique, presque 43%. De nombreux secteurs économiques sont touchés, bien sûr le monde du jeu vidéo, mais aussi le commerce de détail, les voyages, les services financiers, les sites gouvernementaux. Des attaques, souligne l'étude, qui ont un impact négatif sur les finances des entreprises, plusieurs milliards de dollars par an. Des attaques qui dégrade aussi la qualité de service en ligne. Plus globalement, les bots, malveillants ou non, sont petit à petit en train de prendre le contrôle de nos réseaux. De plus en plus de robots, de moins en moins d'humains. Selon Imperva, les humains ne génèrent plus que la moitié du trafic Internet mondial.
Incroyable. La moitié du trafic Internet qui est donc, on va dire, occupé par les bots. Qui parasite, qui gangrène en quelque sorte l'internet. C'est fou cette histoire-là. On s'éloigne un petit peu du sujet Elon Musk et Twitter, mais finalement pas tant que ça, non, Christophe ?
Oui, il y a une grosse partie des bots qui sont des bots malveillants et qui sont aussi beaucoup utilisés dans les attaques dans les attaques cyber ou pour récupérer des informations. Et puis tu faisais référence à ce rapport de Thales, mais il y a la société allemande avec qui je travaille sort son Threat Landscape 2024 pour parler français sur ce qui s'est passé sur le territoire français. 33% d'augmentation des ransomware, des bots qui sont nourris à l'intelligence artificielle pour créer des éléments contextuels qui fait que l'utilisateur se laisse avoir. Il y a une puissance de l'IA au service de la cyber et de ces outils-là qui est très inquiétante et qui sont mis aux mains de mafias qui sont comme des multinationales au service
de pays, hein,
de pays qui veulent déstabiliser d'autres pays.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Salim ? Oui, non, réagir là-dessus.
De manière générale, dans toutes les industries, entre guillemets, les voleurs et les malveillants sont toujours plus rapides, plus innovants que. On trouve les solutions après. Et aujourd'hui, les bots, ils arrivent à avoir accès quasiment à l'intégralité des sites internet, parce que les CAPTCHA. franchement, ne sont plus du tout efficaces. Enfin, quand on voit ce que GPT-4 et les autres LLM sont capables de faire, on vous demande de cliquer sur trois feux rouges, n'importe quel modèle LLM aujourd'hui capable de faire. Modèle LLM, ils sont capables de réussir des concours à l'entrée de Polytechnique sans aucun problème.
Avec les CAPTCHA, des fois, je ne comprends pas trop.
Voilà. Donc, les CAPTCHA aujourd'hui sont complètement inefficaces. Et je pense que ça explique aussi en partie l'explosion de effectivement des alors peut-être que ça donne une opportunité et en face entre guillemets la formation des gens en cybersécurité pour l'instant pas à la hauteur. Alors ce sera peut-être un des grands métiers du 21e siècle avec la data science et l'intelligence artificielle.
Boris, avec en plus en ligne de mire les JO là
parce que c'est le sujet derrière, on parle beaucoup de bots et de trafic un peu au général. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que derrière, il y a des volontés potentiellement dirigées, de déstabilisation. Et
nuisances.
Et avec des humains qui ont décidé d'attaquer tel ou tel service pour déstabiliser, écorner. Et en ce moment, l'image de la France, comme on le voit, en vue des JO, c'est, je pense, des campagnes assez globales. Mmh. On a vu que l'affaire des punaises de lit était un peu montée en épingle.
Tout à fait, ouais.
Fomentée par des potentiels médias russes. Mmh. Viginum a relevé qu'il y avait beaucoup de médias russes qui diffusaient des fausses informations. Et là, on a pas mal de cyberattaques par des nids de services contre des organismes d'État. C'est un ensemble un petit peu pour écorner l'image de la France.
Tout à fait, déstabiliser, surtout à un moment où tous les projecteurs seront braqués sur notre pays à l'occasion des JO. Christophe, Salim et Boris, on va revenir dans un instant, il est bientôt 20h30, on va retrouver l'Info Écho. Et puis on repart, vous le savez, pour commenter ensemble toute l'actu tech jusqu'à 21h. Vous restez avec nous dans quelques instants. On s'intéressera à cet investissement assez étrange de la part de Microsoft, hein, plus $1 milliard dans une boîte aux Émirats. Christophe va nous expliquer tout ça. Et puis TikTok, qui encore une fois pointé du doigt parce que visiblement les données des utilisateurs américains de TikTok, hop là, prendrait la direction de la Chine, alors que TikTok a toujours démenti le contraire. Donc voilà, on va revenir sur tout ça dans quelques instants. Merci d'être avec nous, Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite après l'Info Écho.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et Étienne Brack nous a rejoint sur ce plateau, chers amis. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver. Étienne, journaliste à BFM Business. Et il y a cet accord donc entre G42 et Microsoft. Hein, c'est l'une des actualités, on va dire, saillantes du jour. Et une fois de plus, Microsoft rafle la mise avec OpenAI et ça se passe aux Émirats Arabes Unis.
Oui, c'est assez important. Hein, 1,5 milliard alors qu'il y avait déjà un investissement de quasiment 3 milliards ces derniers jours au Japon. C'est un investissement stratégique hein, puisque en échange de cet investissement de 1,5 milliard, eh bien vous avez Microsoft qui va rentrer au board de GA42 et puis surtout qui va devenir un fournisseur essentiel de services. Hein. Forcément, l'entreprise, le fonds, hein, puisque c'est un mélange des deux, va se fournir auprès de Microsoft pour ses solutions d'intelligence artificielle, mais pas que. Alors c'est une solution, une société plutôt qui est assez méconnue hein, médiatiquement. Ils font pas beaucoup parler d'eux, mais peut-être qu'avec ce partenariat, eh bien ils iront plus loin, notamment en termes de créativité et de nouvelles. D'autant plus que G42 et Microsoft vont créer un fonds de 1 milliard afin d'alimenter et de créer un vivier de développeurs. Donc forcément, c'est une bonne nouvelle pour Microsoft. Alors le groupe ne donne pas la répartition géographique de ses ventes, hein, mais c'est une zone où il y a une croissance importante. Et puis surtout, il ne s'en cache pas avec G42. Microsoft espère ouvrir des portes en Asie, mais aussi en Afrique. Alors c'est quand même assez important, d'autant plus qu'en coulisses, vous avez la Maison Blanche qui a fait des tractation qui a dit à G42 on veut bien, mais à condition que vous vendez vos participations en Chine. Donc en février, ils ont vendu toutes leurs participations qu'ils avaient en Chine. Et puis surtout, c'est un accord qui aujourd'hui serait inimaginable avec un grand groupe chinois. Ça, c'est sûr, hein, puisque forcément, derrière tout cela, eh bien, il y a l'accès aux technologies. Alors, c'est un investissement important pour Microsoft, 1,5 milliard. Mais quand vous regardez, au final, la trésorerie, c'est un groupe qui a entre 60 et 80 milliards de cash aujourd'hui.
Oui.
Bien planqué, enfin planqué dans le sens où c'est placé hein, en termes de liquidité. Donc 1,5 milliard, au final, ça reste une somme assez ordinaire hein, pour Microsoft. D'autant plus, comme je le disais, ça va aujourd'hui donner un carnet d'ordre assez important dans le sens où derrière, ce sont des clients potentiels.
Merci beaucoup Étienne Brack et toujours avec nous Christophe Olnet, Salim Hassan et Boris Mananti. Christophe, intéressant hein, cette prise de participation qui est minoritaire, hein, oui. Rappelons-le, oui, dans G42. Comment tu analyses en fait cet investissement?
C'était bien résumé par Étienne. Je pense que ça peut apparaître comme une victoire, un beau gain commercial pour Microsoft, mais c'est aussi plutôt derrière une prise de guerre, si je puis dire, géopolitique, oui. De la part
du gouvernement américain.
Cette entreprise, elle a été créée il y a 5 ans, G42, avec des fonds très importants qui visaient à faire des Émirats Arabes Unis une superpuissance dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Donc c'est une boîte spécialisée dans l'IA, G42.
Oui, mais c'est un mix d'une boîte de conseil, des startups, un fonds, des différents. Il y a 22 000 personnes, beaucoup beaucoup d'argent, et ils ont commencé à développer des choses assez intéressantes avec une vision et des data centers, une vision très souveraine. Et au début, Microsoft a regardé ça d'un peu loin en disant bon, c'est encore un truc. Ils ont continué. Et en fait, ils ont donc développé avec Huawei. Et depuis 3 ans, ça devenait un irritant pour Microsoft, même localement, parce que certains acteurs du secteur public allaient vers ces data centers. Et donc
c'était une boîte qui était adoubée aussi par la Chine.
Oui, Huawei. Il faut savoir que Peng Xiao, qui est le directeur général de G42, est l'ancien directeur général de Pegasus. C'est un Américain, visiblement d'origine chinoise, mais qui avait la nationalité américaine, qui l'a abandonné pour la nationalité des Émirats Arabes Unis. Donc, il y avait, de la part du département du commerce américain, donc ce personnage un peu sulfureux, ses liens très forts avec Huawei, il avait développé des liens très forts avec Huawei chez Pegasus, vous savez, ce
oui, logiciel
espion.
Ce fameux
logiciel
qui s'est retrouvé.
Voilà. Et donc, il y a un peu moins d'un an, il y a eu une réunion où le département du commerce américain a visiblement, de ce que Bloomberg explique, a visiblement mis les points sur les i en disant si vous continuez, vous ne désinvestissez pas en Chine, vous continuez, vous n'aurez pas accès aux puces Nvidia, par exemple. Ce genre de choses. Donc évidemment, c'était un gros danger. Et donc, ils ont entamé un processus de désinvestissement qu'ils ont annoncé en février. Et puis là, on a conclu un bel accord Microsoft, un peu à la bleue, c'est-à-dire qu'on va faire du souverain AI local. Bleu étant la joint venture Capgemini, Orange et Microsoft qui est en France, c'est un peu quelque chose comme ça. Mais donc ça, je pense que c'est très positif pour Microsoft. Je crois que le secteur public des Émirats Unis sont contents parce qu'ils vont pouvoir faire du Microsoft alors que ça les gênait. Mais derrière, c'est un win-back, si je puis dire, formidable pour le gouvernement américain dans une zone où finalement, un peu comme Singapour ou Émirats Unis, c'est des pays qui essayent
qui sont au carrefour entre l'Occident et l'Asie.
Et donc là, ils ont complètement récupéré les choses. On voit Brad Smith, qui est la seule personnalité maintenant au board. Il n'y a pas de Chinois au board. Ils n'ont pas mis quelqu'un d'offre-produit. Ils ont mis quelqu'un vraiment spécialisé à faire public. Et je pense que ça va être un formidable poste d'observation aussi de ce que font les Chinois.
Boris, sur ce sujet.
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'assister à un jeu de risque qui est la bataille de l'IA qui commence. Et chacun place un peu ses pions et ses troupes. Et c'est effectivement une belle prise de guerre pour Microsoft dans la compétition mondiale que va être l'IA. Ça commence, c'est clair.
Moi, je trouve qu'évidemment, c'est bien joué de la part de Microsoft. Il y a deux choses. Il y a une stratégie très offensive, déjà commercialement, effectivement, et pour les équiper de tous les serveurs Microsoft, etc. Mais en dehors de ça, ça leur donne la main sur un actif qui peut être très stratégique, parce que, enfin, de ce que je comprends, G42 a un asset qui est très intéressant, c'est qu'ils font ils sont très bons pour les LLM arabophones.
Absolument.
Donc pour les LLM, l'équivalent de OpenAI, enfin de GPT-4, etc.
Oui.
Sur la langue arabe. Alors je sais pas à quel point GPT-4 est performante en langue arabe, mais il se trouve que G42 visiblement est très performante, donc ça leur donne une supériorité sur un marché qui est quand même super stratégique.
Et quand on sait que les accointances entre OpenAI et Microsoft sont quand même assez fortes, on voit l'intérêt.
Et d'un autre côté, une stratégie défensive qui est de dire on va essayer de limiter que la Chine mette la main sur des actifs stratégiques avec des partenariats effectivement avec Huawei et compagnie et potentiellement j'imagine des discussions actionnariales ou capitalistiques qu'ils auraient pu avoir dans le futur. Et je suis complètement d'accord avec toi. On voit qu'il y a pour l'instant, les États-Unis ont l'air d'avoir beaucoup d'avance. Si on regarde tous les champions mondiaux de l'IA aujourd'hui, les champions, enfin les grandes boîtes américaines ou les grands fonds américains sont tous actionnaires minoritaires ou majoritaires. Tous les voilà, les Claude Anthropique avec Amazon, OpenAI avec Microsoft, Gemini Google, Llama Facebook, même Mistral AI qui est censé être le champion français, Andreessen Horowitz au capital. À chaque fois qu'ils voient émerger un champion dans n'importe quelle région,
ils investissent.
On investit, on essaye de prendre des parts parce que on ne sait pas quel sera le grand vainqueur à la fin, mais ils maximisent leur probabilité de détenir les 2-3 champions qui vont émerger.
C'est sûr que si on avait un doute sur le fait que la Big Tech soit au service du gouvernement américain et réciproquement,
on n'a plus de doute.
Non, ça c'est clair.
Parce qu'on peut imaginer qu'en sous-main, dans cette transaction, il y a la Maison Blanche.
Oui, enfin, ça paraît assez évident là, oui, de ce qu'on lit. Bon, ouais, et puis,
En tout cas, de ce qui transparaît dans la presse, c'est personne n'a l'air de s'en cacher.
Non, et même
Peng Xiaoli. C'est les Chinois qui doivent tirer la gueule, non ?
Le DG de G42 a dit oui, bon, de toute façon, il faut être pragmatique. Si on veut pouvoir avoir accès et pouvoir offrir la plus large palette
de
technologies au monde, il y a des choses qu'il faut qu'on désinvestisse en Chine pour pouvoir avoir accès aux technologies occidentales. Voilà, donc il l'a quasiment dit comme ça.
Ouais, intéressant. Bon, dans l'actualité, autre sujet, puisque on se rapproche petit à petit de l'Asie. Si on s'intéresse à TikTok, l'actualité TikTok, elle est quasiment quotidienne. Hein. C'est vrai que les jours sont compliqués pour le patron de TikTok, qui se retrouve tiraillé et bien évidemment toujours pointé du doigt par à peu près tous les pays occidentaux. Hein. On ne va pas vous refaire l'histoire. La dernière histoire en date, elle est très récente. Ce sont d'anciens salariés de TikTok qui auraient, on va dire, raconté que, il y a toujours des connexions entre TikTok et ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, ce qui a toujours démenti TikTok et ByteDance en disant la version occidentale, elle est déconnectée en fait de la Chine. Vous pouvez nous faire confiance, etc., etc. On n'a rien à voir avec ça et on n'a pas accès aux données. Ben, il se trouve que d'anciens employés, plutôt placés d'ailleurs hein, chez TikTok, auraient prouvé le contraire. Et là, évidemment, ça arrange pas les affaires de TikTok, Christophe.
Non, en fait, qu'il y ait des liens entre TikTok et ByteDance historiquement, personne n'en doute.
Logique.
Elle fait très mal cette attaque parce que qu'est-ce qu'elle dit ? C'est un data scientist qui dit tous les 15 jours, j'envoyais un fichier Excel ou autre avec des millions
une clé USB.
J'envoyais avec des millions de comptes, adresse IP, nom d'utilisateur, démographie, etc. J'envoyais ça en Chine, on me demandait de le faire.
J'espère que c'était pas la clé USB qu'ils ont perdu dans le RER avec les plans des JO.
Ça, ils le faisaient.
C'était une autre.
Ils le faisaient avant. Mais il faut savoir qu'en mars 2022, enfin à un moment donné, il y a eu un accord, ils ont dit, bon, finalement, on entend bien vos préoccupations.
On arrête d'envoyer les données.
On fait un mur de Chine, si je puis dire,
bien sûr.
C'est pas la bonne expression.
Mais
un mur étanche
évocatrice.
Entre TikTok, États-Unis et ByteDance. Et là où l'attaque fait mal, c'est qu'il accuse le management de complicité et de duplicité. Et aux États-Unis, on peut faire des conneries, mais mentir, ça, c'est pas accepté. Et donc, je pense que c'est même presque plutôt un cadeau empoisonné pour Biden, parce qu'il va se retrouver avec des preuves quasi objectives qu'ils ont menti, puisqu'il dit aussi que on lui a dit post-accord, bon, ton nouveau manager, il est à Seattle là, mais en fait, dans la réalité, tu continues à reporter à la personne à Pékin et tu continues à les envoyer. Donc, ça veut dire que ils se sont moqués de cette... Ils n'ont pas tenu parole, ils se sont moqués de cet accord-là. Et si ça s'est avéré vrai, il va falloir prendre des mesures. Et le coût, COUT, politique, à 6 mois d'une élection, de dire « je bannis TikTok », ce n'est pas une décision facile.
Oui, Boris, tout ça dans un contexte où, il y a des sénateurs aux États-Unis qui veulent l'arrêt de TikTok, en fait. Oui. Ils veulent que TikTok sorte, en fait, du continent américain. Oui. Qu'on ne puisse plus télécharger TikTok sur les stores.
Le bannir.
Mais ça commence à être assez, j'ai l'impression, en tout cas, partagé, côté démocrate comme républicain, qui a un vrai problème TikTok. Ils l'ont déjà interdit à tous leurs fonctionnaires. Ça pourrait être l'étape d'après de se dire qu'on bannit parce qu'il respecte, TikTok ne respecte pas la loi. C'est valable aux États-Unis, c'est valable en France, c'est valable dans plein d'autres pays. Et en vrai, ces révélations, elles sont choquantes, mais c'est pas une vraie surprise. C'est pas la première fois qu'on apprend qu'ils récupèrent des données. On savait déjà, par exemple, que la direction chinoise avait utilisé TikTok pour espionner une journaliste américaine qui enquêtait sur TikTok. L'espionner, ça veut dire trouver sa localisation, voir avec qui elle parle, trouver les messages. On va assez loin quand même dans les mesures. Et les liens entre ByteDance et TikTok, qui est censé être une multinationale, sont hyper étroits et ça ne va pas s'arrêter demain. A priori, le code informatique est le même que Douyin, la version chinoise. Une grande partie est en mandarin et reste traitée à Pékin.
Ouais. Ouais. Non, je pense que c'est une surprise pour absolument personne qu'il continue à avoir de la communication entre TikTok et Biden. Enfin, je serais surpris qu'il y ait des gens qui soient surpris par cette nouvelle.
À l'ère de
quand il y a l'annonce et quand il y a des choses plus concrètes, évidemment, ça donne encore plus de travail aux politiciens parce qu'ils ont le nez dessus, ils doivent agir. Mais voilà, si les politiques américains ne sont pas à l'aise avec ça, évidemment qu'ils ne le sont pas, mais ils doivent tout simplement agir et interdire TikTok ou les faire passer avec un actionnaire américain. Mon sentiment, c'est que la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est qu'il y a toute une économie de créateurs autour, toute une panoplie de business qui compte sur TikTok pour vivre de la même manière que sur d'autres plateformes, et que c'est compliqué. Mais je pense que tant que TikTok, avec son lien capitalistique avec ByteDance, existera, je ne vois pas comment ce sera possible que la Chine ne continue pas d'espionner.
D'où la volonté des États-Unis de désolidariser TikTok US, ça serait l'une des options possibles. Il faudrait qu'un géant de la tech américain ou un géant tout court
à l'époque, Trump avait demandé à Oracle de le faire.
Tout à fait.
On se souvient.
Et puis finalement, c'était tombé à l'eau. Après, Trump a été remplacé par Biden.
En période d'élection, on peut faire confiance aux politiques pour pas prendre des décisions rationnelles, mais les faire uniquement en posture politique. Donc, si jamais Biden dit bon, on va bannir TikTok, on peut être à peu près sûr que Trump, ayant revendiqué la même chose, volera au secours des PME, PMI qui font du business avec TikTok ou des ados qui ont le plaisir à l'utiliser pour dire qu'il faut pas le bannir.
Après, je trouve qu'on parle beaucoup des États-Unis, on entend très très peu les politiques françaises s'emparer de ce sujet-là. On a une commission sénatoriale qui a enquêté dessus, qui a dit qu'il faudrait bannir TikTok tant qu'il ne respecte pas la loi, puisque TikTok, en France, ne respecte pas la loi de protection des données. C'est avéré. Il y a des données qui sont transférées vers des serveurs chinois, ce qui est illégal. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune sanction? On a le président chinois qui va venir début mai, rencontrer Emmanuel Macron, ça serait une formidable occasion pour que le sujet soit évoqué.
Ouais, c'est clair. Après, comme il va acheter sans doute quelques centaines d'Airbus,
c'est peut-être pas la priorité. C'est
quelques
vrai.
EPR, c'est peut-être pas le moment.
Au-delà du non-respect de la vie privée, je pense que l'autre chose, tu es un spécialiste du sujet, tu as écrit un livre là-dessus, c'est l'impact que ça a sur l'abrutissement généralisé de générations dont on considérera probablement dans 50 ans qu'elles ont été des générations sacrifiées. Est-ce qu'il va falloir faire quelque chose?
En tout cas,
pas que TikTok. Ouais.
Non, absolument.
Non, mais la question du temps
TikTok,
passé.
TikTok, on est un emblème.
Ce qu'ils viennent quand même de lancer, ce fameux TikTok Lite, où on est rémunéré, certes en bon d'achat, mais on est rémunéré pour le temps passé sur l'application.
Ouais, ça c'est chaud quand même. C'est-à-dire que vous téléchargez une application autre que TikTok, et plus vous restez de temps, je schématise et voilà, je grossis un peu le trait, et vous gagnez de l'argent en regardant des vidéos, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Mais alors, je veux pas prendre la défense de TikTok ici, parce qu'on est tous plus ou moins d'accord sur tout ça, mais TikTok est un peu montré comme le vilain petit canard, mais tous les réseaux sociaux américains font pareil en fait. Les Instagram, les Facebook récoltent des données, les envoient aux États-Unis. Et là, on dit rien, finalement.
Il y a un point de différence crucial qu'il ne faut jamais perdre de vue. Les États-Unis sont un allié géopolitique de la France. La Chine ne l'est pas.
Oui.
Le Parti communiste chinois est au sein de ByteDance, a des sièges, a des actions chez ByteDance. Ils ont des représentants très officiels, comme les grandes entreprises chinoises, chez ByteDance.
Oui, d'accord. Mais enfin, bon, la Chine aujourd'hui n'est pas un ennemi, si tu veux.
Ce n'est pas un allié.
Ce n'est pas un allié.
C'est une différence assez fondamentale en géopolitique.
Non, mais tu as raison. Mais on peut imaginer aussi que demain, les relations se tendent entre la France, l'Europe et les États-Unis. Enfin, on vit un monde où tout est possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on montre du doigt TikTok. Beaucoup moins, personne ne parle de Facebook, qui est un aspirateur ordonné. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nouveau réseau qui s'appelle Threads, qui, lui, alors aspire tout ce qu'il y a sur votre téléphone. D'ailleurs, il est arrivé un peu en retard en France sur ce sujet-là. Enfin, je ne parle pas d'Instagram, je ne parle pas de Twitter aussi, quoi. Salim.
Ouais. Non, franchement, quand tu as commencé à parler du sujet, j'ai pensé, je me suis posé la même question. La Chine avait eu un équivalent du Cloud Act, tout le monde aurait crié au scandale absolu, etc., alors que les Américains le font limite ouvertement en disant qu'ils peuvent exploiter les données sous certaines conditions. Ça paraît assez improbable que dans certains cas, ils ne le fassent pas. Et donc, j'ai du mal à penser que les Américains ne le fassent pas aussi. Alors, peut-être que c'est une position assez forte, mais évidemment, quand on voit toutes les données qui sont traitées par les serveurs AWS, etc., qui peuvent être extrêmement stratégiques, il y a des raisons de penser que sur certaines conditions, ils utilisent aussi certaines de ces données-là, pourquoi pas. Ouais. Mais le fait que ce soit la Chine, pas l'allié effectivement des pays occidentaux, fait que ça fait plus de bruit. Je pense que les autres plateformes devraient avoir le même problème.
Et pour revenir à TikTok, imaginez le courage politique qu'il faut pour enlever le TikTok de la main de millions et de millions de jeunes adultes.
Certains pays l'ont fait. Alors, c'est pas le meilleur modèle qu'est l'Inde, mais puisque c'est un pays assez autoritaire, ils l'ont fait.
Ouais, ils l'ont fait. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça serait possible ici, aujourd'hui ?
En Inde, quand ça s'est fait, immédiatement, il y a eu des applis qui copiaient-collaient.
D'accord,
c'est vrai qu'ils sont. Et donc, ils sont les usages, l'usage, on l'a retrouvé d'une autre manière.
Ouais, c'est clair. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on revienne sur le livre de Boris, hein, Elon Musk, Le Bonimenteur, qui sort le 2 mai prochain, donc aux éditions Rocher. Combien de temps faut-il pour écrire un bouquin comme ça, aussi détaillé sur Elon Musk ?
C'est une vaste question. Je dirais que j'ai mis un an et demi.
Un an et demi quand même.
Juste comme ça.
D'accord.
J'ai eu une naissance entre-temps. Un peu interrompu à un moment.
Mais ça va, donc tu avais des nuits blanches. Tu pouvais écrire. On parlait tout à l'heure des relations que peuvent entretenir toutes ces boîtes avec les États, et notamment Microsoft avec la Maison Blanche, hein, puisqu'on voit que tout ça a été mené de concert. Quelle relation a Elon Musk justement avec les gouvernants ? Il est plutôt opportuniste ? Comment ça se passe ?
Disons que depuis SpaceX...
Parce qu'il n'est pas ouvertement contre Biden.
Non. Il n'est pas ouvertement pour non plus.
Ouais. Oui, mais bon.
Et il appuie bien sur la politique des migrants, qui est tout le discours des Républicains en ce moment. Mais depuis SpaceX, c'est devenu un homme politique, en fait, puisque tous les contrats de SpaceX sont des contrats publics.
Et oui.
Il passe son temps à négocier des très gros contrats. Notamment la NASA. Donc c'est très très important, les relations politiques pour lui. J'ai l'impression, et c'est ce qu'on lit un peu des bruits, il y a eu quelques grandes enquêtes du Wall Street Journal en début d'année sur ses consommations de drogue.
Oui.
En tant que patron, mais aussi comment il influence son board pour les inciter à consommer des drogues.
On se souvient de ce podcast où il fumait.
Voilà.
Mais là, il y a aussi le microdosing.
Qui est une vraie tendance. L'article, en tout cas, je ne sais pas, mais l'article parlait de drogues beaucoup plus dures. Ouais. Les directions de la NASA sont pas très fans. Ça grince un peu que
le CEO d'une boîte qui va fournir, je sais pas moi, des fusées à la NASA ne peut pas ne pas être irréprochable, en fait.
En tout cas, ouvertement, savoir qu'il consomme des stupéfiants.
Tu parlais de microdosing, c'est vrai que ça c'est une rumeur.
Je vous avais envoyé un article là-dessus, dans la Silicon Valley, qui commence à dire, moi finalement, pour être plus performant,
que c'est bénéfique.
Prends des microdoses de différentes.
Quoi, des amphétamines, des choses comme ça.
Différents stupéfiants, différents dérivés. Et ce microdosing, et des dirigeants de boîtes tech encouragent leurs collaborateurs à le faire pour augmenter leur performance. Donc c'est une vraie tendance dans la Silicon Valley.
Je crois qu'il y a un documentaire sur Netflix là-dessus. Ouais.
Sur le microdosing, il me semble. Alors Salim, tu es un adepte depuis quelques années. Comment ça se passe, le microdosing ?
Je l'apprends ce soir que ça existe.
Non, mais sincèrement, c'est étonnant. Et alors, tu parlais de la NASA, mais quand on voit Neuralink aussi, qui est une boîte qui... en plus, avance avec des succès incroyables, là. Hein. Alors, il y a eu pas mal de casses, mais c'est vrai que...
Pas mal de casses.
Il y a eu pas mal de casses, mais rappelons que, il y a une personne qui est tétraplégique, qui arrive, grâce à la pensée, à pouvoir jouer à des jeux vidéo, à manipuler un ordinateur et tout. C'est quand même incroyable, cette aventure-là.
Ah, ça se développe très vite, mais du coup, l'image qui est renvoyée va être importante, puisque là, on parle quand même de santé publique. il faut être assez irréprochable. Si à côté de ça, le même patron
fait du microdosing.
Mais c'est là où je trouve que la puissance d'Elon Musk, Elon Musk a une autorisation de la FDA de pouvoir transplanter justement cette puce dans un être humain. Je pense que si ça n'avait pas été lui, et si ça n'avait pas été les États-Unis, ça aurait été compliqué de le faire.
Oui,
donc bravo à son personnage et bravo aux États-Unis d'avoir cette philosophie entrepreneuriale de preneur de risque pour faire avancer la science. Je pense qu'en Europe, on aurait mis 15 ans avant d'avoir une autorisation et 15 ans plus à faire le premier test.
Alors qu'on a le CEA qui travaille sur, sur un concept de puce, alors un petit peu différente, mais en tous les cas, qui a pour but de faire remarcher les gens qui sont paralysés. J'avais interviewé cette start-up qui est incroyable, mais c'est vrai qu'ils ont du mal justement à avancer, sans mauvais jeu de mots, parce que il faut toutes les autorisations, etc., etc. Et la lourdeur administrative française fait que ça prend des dizaines d'années. Quoi.
Après, tu dis bravo, à côté de ça, peut-être que c'est plus lourd. Pour autant, lui, ça a été peut-être un peu trop vite, puisqu'on a appris quand même qu'il y a pas mal d'animaux qui sont passés sur le billard et qui ont été un peu sacrifiés comme ça,
C'est clair.
Juste pour accélérer et pour aller vite.
C'est sûr.
Sans aucune précaution.
Bon, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, la face cachée, la face sombre d'Elon Musk, rendez-vous le 2 mai. Hein, voilà.
Exactement.
C'est le 2 mai que sortira ce bouquin qu'on vous fait découvrir donc en avant-première ce soir dans Tech & Co. Boris Monanti, son auteur, était avec nous sur ce plateau. C'est paru aux éditions du Rocher. Merci Boris.
Merci à toi.
Et tu reviens quand tu veux pour débriefer l'actu, qu'elle soit d'Elon Musk ou autre. Voilà. Et merci beaucoup à Christophe Holnett.
Merci.
Rappelons-le, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. Et Salim Assad.
Merci.
À bientôt, Salim, associé chez Newfound. Vous restez avec nous. On va revenir dans un instant pour notre dernière partie de ce Tech & Co. Et on va se faire plaisir avec un invité exceptionnel. Le général Ghislain Réty sera avec nous sur le plateau. C'est le commandant du GIGN. Le GIGN qui fête ses 50 ans cette année. Et vous allez voir que la tech est vraiment partout dans le GIGN. Et on aura des exemples incroyables que va nous raconter notre invité qui sera sur notre plateau pour une interview format longue. Juste après, Léa Benaïm qui nous rejoint dans une minute pour le Tech Flash comme chaque soir. Merci d'être là, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Il est 21h sur BFM Business en ce mardi soir. Merci d'être là, en direct à la radio, à la télé, ou en replay, ou en podcast. Il est temps, comme chaque soir, de retrouver le meilleur de l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash, et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François, et bonsoir à tous. Et pour commencer, Microsoft investit 1,5 milliard de dollars dans une société basée aux Émirats Arabes Unis. Elle s'appelle G42. Elle est spécialisée en intelligence artificielle. Microsoft y prend donc un siège au conseil d'administration et en échange du chèque, le géant américain aurait demandé à G42 de couper ses liens avec la Chine, comme par exemple retirer les équipements Huawei de ses opérations. Depuis plusieurs mois, Washington s'inquiète des liens d'Abu Dhabi avec Pékin. Le deal est en réalité le fruit d'une étroite collaboration avec les gouvernements américains et émiratis. Retour en Europe avec le Royaume-Uni qui va à son tour sanctionner les deepfakes. La création de ces fausses images devient une infraction pénale et son partage, même sans création, sera passible d'une peine de prison. En France, l'auteur d'un deepfake à caractère sexuel risque aujourd'hui 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et après les deepfakes, les bots, eux aussi, posent problème et c'est Elon Musk qui veut en faire son affaire. Les CAPTCHA qui demandent « Êtes-vous un robot ?» ne sont plus efficace face à l'IA. Et pour y remédier, il veut faire payer les nouveaux utilisateurs de X. On ne connaît pas encore le montant ni la date de lancement, mais pour ceux qui ne souhaitent pas payer, il faudra attendre 3 mois après la création du compte pour être autorisé à poster. Un modèle déjà existant en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, où les utilisateurs de X payent 1$ par an pour utiliser le réseau. Et Boston Dynamics envoie Atlas à la retraite. En juillet dernier, le robot humanoïde a fêté ses 10 ans. Une concurrence qui se fait rude sur le marché avec l'arrivée des robots Figure et celui d'Elon Musk Optimus. Selon TechCrunch, cette décision pourrait annoncer l'arrivée d'une nouvelle génération de robots bien plus performants. Aujourd'hui, l'entreprise mise plutôt sur des chiens robotiques comme Spot ou des bras articulés. Et pour dire au revoir à Atlas, Boston Dynamics a publié un bêtisier du robot avec toutes ses plus belles chutes. Si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez les images. Et pour ceux qui sont en radio, la vidéo est à retrouver sur la chaîne YouTube.
Et imaginez donc des robots qui tombent par terre, qui se cassent la figure. C'est rigolo parce que ce sont des robots humanoïdes qui parfois bougent comme des humains, de vrais humains. Oui, et on les voit glisser, on les voit tomber et on fait preuve d'empathie.
Moi, quand ils trébuchent, j'ai vraiment l'impression que c'est un humain. C'est des sacrées belles gamelles, donc à aller voir sur leur chaîne YouTube.
Voilà, les chaînes YouTube,
on peut en rigoler.
Voilà, c'est ce bêtisier. Les bêtisiers des robots, ben voilà. On connaissait les bêtisiers de la télé, des présentateurs.
Robots, c'est ça.
Maintenant, c'est le bêtisier des robots.
Il est encore mieux que le nôtre, je crois. Et pour finir, rendez-vous sur les replays de BFM Business pour votre rendez-vous auto. Un nouvel épisode d'En route pour demain, disponible en podcast audio et vidéo. Et Pauline Ducamp s'est rendue chez le constructeur Lotus. On écoute tout de suite un extrait.
Nous sommes donc à Paris, au showroom de la marque Lotus, l'ancien showroom DS, pour ceux qui s'en souviennent, rue François 1er, au cœur du 8e arrondissement à Paris, un écrin donc pour les marques de luxe. Et nous accueillons tout de suite Sébastien Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le directeur pour la marque en France, mais aussi pour la Belgique, pour Monaco, ainsi que le Luxembourg. Alors, première question, Lotus, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément cette marque, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quel est votre catalogue, qu'est-ce que vous proposez comme modèle, nous camper un peu le portrait du Lotus 2024?
Lotus est donc un constructeur de voitures britannique, fondé en 1948 par Colin Chapman et sa femme, qui s'est illustré assez vite dans le sport automobile, et avec des modèles de légende. Il y en a quelques-uns, je peux en parler pendant très longtemps parce que je suis assez passionné, qui ont marqué l'histoire de l'automobile, du cinéma, entre autres. Et aujourd'hui, c'est une gamme qui se développe considérablement en ce moment. On a notre magnifique coupé sportif essence qui s'appelle la Lotus Emira, qui continue, on va dire, la tradition Lotus, la voiture de sport, magnifique, toute récente, qu'on a introduit l'année dernière.
Voilà, En route pour demain, à découvrir sur la plateforme RMC BFM Play, sur le site de Tech & Co et sur la chaîne YouTube aussi de Tech & Co. Tiens, direction la rédaction tout de suite, avec Kesso qui nous a rejoint.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Bonsoir Kesso Diallo.
Bonsoir François.
Journaliste donc à la rédaction de Tech & Co. Et ce soir tu vas nous parler de YouTube qui s'attaque une nouvelle fois aux bloqueurs de publicité, Kesso.
Eh oui François, ça fait des années que les publicités ont envahi YouTube. Elles rapportent de l'argent à la plateforme, mais pour nous elles sont rageantes. Si là par exemple tu vas sur YouTube, t'es obligé de regarder une pub avant de regarder la vidéo et t'es même interrompu en plein milieu de la vidéo.
Ouais, ça c'est pas terrible. Ouais.
Du coup t'as plein d'utilisateurs qui misent sur des bloqueurs. Mais le problème, c'est que YouTube a déclaré la guerre à ses bloqueurs il y a plusieurs mois.
Mmh.
Et là, la plateforme, elle a décidé de s'attaquer aux bloqueurs de publicité sur smartphone. T'as plein d'utilisateurs qui ont signalé avoir reçu un message d'erreur lorsqu'ils ont essayé de regarder une vidéo sur leur smartphone. Et YouTube est allé plus loin. Elle a modifié ses règles d'utilisation pour indiquer clairement que les bloqueurs publicitaires tiers sont désormais interdits.
Voilà, c'est donc la guerre aux bloqueurs publicitaires, on l'a bien compris. Et cette nouvelle attaque, Kesso, est aussi un moyen pour YouTube de mettre en avant l'abonnement payant qui enlève toute la pub.
Et oui, même si la plateforme, elle assure que c'est pour aider les créateurs qui sont rémunérés grâce à la publicité, on sait que YouTube sait quand même qu'on n'a pas envie de voir des publicités lorsqu'on regarde des vidéos. Le problème, c'est que les bloqueurs pour YouTube, c'est moins d'argent pour lui et pour les créateurs. Donc sa solution, c'est YouTube Premium, qui coûte quand même 12,99€ par mois pour ne plus voir de pub, mais aussi streamer de la musique sans publicité ou même télécharger des vidéos pour les regarder dans les transports.
Mmh.
Et c'est pas la première fois que YouTube cherche à nous inciter à s'abonner. Si là, par exemple, tu vas sur YouTube sur le web, mais que tu as un bloqueur activé, tu vas avoir un message d'erreur et YouTube écrit noir sur blanc, bah, tu peux profiter de YouTube sans publicité si tu t'abonnes. Et bonus, tu permets aux créateurs de gagner de l'argent avec ton abonnement.
Ouais, c'est vrai. Mais ça fait un abonnement supplémentaire après les Netflix, après les Amazon, après les Disney+, etc. Il faut payer à tous les étages, messieurs, dames. C'est comme ça. Merci beaucoup, Kesso.
Avec plaisir.
Kesso, Diallo, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Allez, on va fêter un anniversaire, les 50 ans du GIGN, avec son boss qui est avec nous sur le plateau.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille sur le plateau de Tech & Co, Ghislain Réthy. Bonsoir mon général.
Bonsoir.
Vous êtes le commandant du GIGN, vous êtes diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous êtes un officier général français de la gendarmerie nationale, général de division. Et depuis le 1er août 2020, vous dirigez le GIGN. Vous avez été aussi appelé pour apporter une mutation du GIGN en 2021. Est-ce que... Avant de rentrer dans ce projet de mutation que vous avez lancé en 2021, nous expliquer ce qu'est le GIGN, parce qu'on entend tout le temps parler de vous dans les médias, mais on ne sait pas trop ce que vous faites et qui vous êtes.
Alors effectivement, le GIGN, il y a beaucoup d'images d'Épinal. On retient des fois les grandes missions historiques. Ça peut être Marignane, Ouvéa, Dammartin et plein d'autres d'ailleurs, puisque le GIGN, c'est quand même 2800 missions par an, donc 7 à 8 missions par jour. Le GIGN, en fait, qui va avoir 50 ans, c'est trois métiers. C'est le métier de l'intervention. Intervention, donc bien évidemment tout ce qui est prise d'otage, tout ce qui est individu retranché, tout ce qui est enlèvement, mais c'est aussi intervention au profit des unités principalement de recherche pour faire des arrestations d'individus dangereux, des auteurs de vols à main armée, des trafiquants de stupes, des trafiquants d'armes. Voilà. Ça, c'est le premier métier, l'intervention, le métier historique. Le deuxième métier, un petit peu moins connu, c'est le métier de la protection. On est principalement engagé à l'étranger pour la protection des ambassadeurs dans les pays les plus sensibles. On est actuellement en Irak, on est en Libye, on est en Ukraine, là on est en Haïti, on a renforcé d'ailleurs la sécurité en Haïti, on est comme ça au Pakistan, on est comme ça sur une dizaine de pays les plus sensibles, on protège aussi le président de la République à parité avec la police nationale et d'autres autorités sur le territoire national, mais c'est pas notre cœur de métier, c'est plutôt les pays sensibles. Et le troisième métier encore moins connu, c'est le métier de l'acquisition du renseignement. Donc c'est tout ce qui est filature, tout ce qui est pose de caméra, tout ce qui est pose de capteurs sur un véhicule, tout ce qui est pose de micro dans des domiciles. Voilà.
Donc c'est récolter de l'information.
Exactement, à des fins tactiques, à des fins d'enquête judiciaire ou enquête administrative. Voilà. Donc tout ça, ça...
Donc vous allez mettre quoi? Des micro-espions? Enfin, vous allez pouvoir installer des logiciels sur les téléphones, vous allez pouvoir écouter des lignes, comment ça marche?
Alors ça se fait effectivement dans un cadre légal très précis, très encadré.
Bien sûr, évidemment.
Mais effectivement, le but, c'est d'acquérir du renseignement en allant dans les domiciles, éventuellement, dans ce cas, en posant des micros, voire des caméras dans les domiciles, dans les voitures. C'est aussi des filatures pour connaître les habitudes des enquêteurs, pour ensuite prévenir éventuellement une attaque d'un distributeur automatique de billets ou une remontée de stupes. Voilà. Donc c'est du travail d'enquêteur au profit des enquêteurs.
Le téléphone portable a révolutionné notre vie. Est-ce qu'il a révolutionné aussi le métier au GIGN? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un smartphone, c'est de plus en plus sécurisé, il y a de plus en plus de messageries, parfois... qui mettent en avant l'aspect sécuritaire de leur système de cryptage, en fait, de données. Est-ce que c'est pour vous un obstacle pour la récolte de ces informations, justement, dont vous parliez il y a un instant?
C'est toujours le glaive et le bouclier. On voit bien qu'il y a des nouvelles applications, donc il faut apprendre à connaître ces applications, à les dépasser pour éventuellement les pénétrer. Donc ça, il y a des services pour ça, en gendarmerie et pas qu'en gendarmerie.
Et là, vous vous associez parfois à d'autres pays spécialisés, alliés par exemple, qui pourraient vous aider? Ou est-ce que véritablement, tout ça reste en France?
Non, il y a une très belle coopération, en tout cas dans le domaine des unités d'intervention dites spécialisées. Et pas que l'intervention, c'est aussi dans le domaine de l'observation. Il y a des réseaux d'unités de protection, il y a des réseaux des nouvelles technologies. Et tous ces réseaux coopèrent relativement assez facilement et on partage assez facilement avec nos partenaires de tous les pays du monde. Donc là-dessus, il y a une vraie dynamique et on apprend beaucoup d'ailleurs de nos partenaires, puisque nous, ce qu'on va mettre par exemple 3 mois pour essayer de casser ou pour essayer de progresser ou d'innover, un partenaire va peut-être nous fournir sur étagère un produit clé en main. Donc ça nous aide beaucoup, quoi.
Alors, votre mission, donc, vous êtes arrivé en 2021, c'était pour, restructurer le GIGN. Quelle était votre mission et quelle est votre mission encore aujourd'hui? Comment transformer le GIGN?
Alors, le GIGN a subi deux transformations, majeure en tout cas. La première, c'est en 2007. On est passé de 100 personnes à 400 personnes en intégrant les deux métiers dont je vous parlais tout à l'heure.
D'accord.
Le métier de la protection et le métier de l'acquisition du renseignement. Et progressivement, depuis 20 ans, on a créé des antennes. des antennes. Actuellement, il y en a 7 en métropole et 7 en Outre-mer. Ces antennes, pour des raisons diverses, elles appartenaient, on va dire, aux échelons territoriaux, ne dépendaient pas organiquement du GIGN. Donc en termes d'emploi, en termes de gestion des personnels, des équipements, voilà, c'était pas très rationnel. Donc
on a dit que vous n'étiez pas le patron de toutes les antennes
exactement,
du GIGN.
C'est chose faite depuis 2021. Maintenant, okay. Je commande les 14 antennes. Je décide de leur emploi, je décide surtout de leur équipement, la gestion des personnels, ce qui permet une fongibilité entre le GIGN historique de Versailles et les antennes. On peut s'appuyer mutuellement, on peut se substituer, on peut mutualiser certaines antennes si besoin, alors qu'avant elles étaient quand même assez cloisonnées. Donc
oui, mais et puis en termes d'efficacité, le fait d'avoir un seul manager, ça doit changer aussi pas mal de choses.
Ça permet
efficacité.
Voilà. Et du coup, les antennes deviennent entre guillemets nationales aujourd'hui.
Voilà. C'est clair.
Elles sont plus cloisonnées sur une seule région. Elles travaillent sur l'ensemble du territoire, métropole comme outre-mer d'ailleurs.
En termes d'effectifs, vous êtes passé de 400 à 1000 personnes
mécaniquement.
Et oui, puisque
il y avait 600 personnes en gros dans les antennes. Voilà.
Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, dans Tech & Co, on aime bien voir comment la technologie bouleverse tous les secteurs, et le secteur de la défense, du renseignement, évidemment, est bouleversé par la tech. On va prendre peut-être plusieurs exemples. Peut-être le premier qui est assez spectaculaire, c'est le drone. Le drone aujourd'hui, ben voilà, on en voit partout. Alors parfois pour le plaisir, mais aussi on le voit pour des résultats dramatiques lors des conflits un peu partout. D'ailleurs, puisque aujourd'hui le drone est devenu une arme kamikaze, hein, on le voit. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que le drone, en fait, vous avez été l'un des premiers à utiliser un drone.
On est la première unité militaire à avoir utilisé des drones.
En France ou dans le monde?
En France.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal, effectivement, puisqu'on a quand même une bonne dynamique technologique en France, technique.
C'était quand et à quelle occasion?
Je dirais qu'il y a une quinzaine d'années. Et en fait, c'était dans le cadre de toujours la recherche de la perfection, la recherche du meilleur, en tout cas, d'essayer de progresser. Et tout ce qu'on pouvait obtenir au sol, on s'est dit, avant, on a même développé des ballons captifs où on pouvait mettre des caméras. Et on s'est dit, mais avec le drone, on va encore aller plus loin. Quoi. Voilà. Donc c'était un immense drone. On le lançait avec une sorte de gros tendeurs, là. On le récupérait dans un énorme filet. Il avait très très peu d'autonomie.
Oui.
Et la caméra était de très très mauvaise qualité.
Voilà. Mais il était piloté, téléguidé par un officier au sol.
Exactement, il était téléguidé.
Ouais, voilà. C'est ça.
Et progressivement, la technologie a amplement évolué. Donc aujourd'hui, maintenant, on a de ce qu'on appelle des nanodrones, des petits Black Hornet là, qui pèsent 23 grammes.
Wow.
Haute définition.
Un gros insecte.
Pardon ?
Un gros insecte.
Exactement.
La taille d'un petit oiseau.
La taille d'une libellule.
Wow.
On ne l'entend pas. Il a une caméra jour-nuit avec une qualité incroyable. Voilà, ça c'est le genre d'innovation où aujourd'hui, nous-mêmes, jusqu'à présent...
Et donc là, c'est du furtif. C'est-à-dire que là, vous pouvez déployer ce genre de petit drone tout petit de la taille d'une libellule pour aller surveiller une zone, pour... écouter des gens, enfin, ça sert à quoi ce type d'appareil?
Le but, c'est principalement, nous on les utilise comme ça en tout cas, c'est de faire des reconnaissances. Aller voir sur un forcené, oui, par exemple, qu'est-ce qui se passe, où est-ce
sans
qu'il est.
Sans qu'il vous voit.
Sans qu'il voit et sans qu'il nous entende. Parce qu'en plus, ce drone est extrêmement silencieux, au-dessus de 3 mètres.
Mais c'est un bijou technologique en fait, parce que ça n'existe pas dans le grand public ce type d'appareil.
Non, c'est réservé effectivement aux forces de sécurité et au monde de la défense en général.
Et qui fabrique ce type d'appareil?
Black Hornet, je ne saurais pas vous dire.
D'accord.
Voilà.
C'est intéressant. Parce que souvent, ce genre de technologie passe par les militaires, la sécurité, puis après arrive dans le grand public. Plusieurs années plus tard, quand on prend le drone, par exemple, aujourd'hui, voilà, c'est un objet de loisir intéressant. Peut-être que demain, on aura ces petites libellules.
Aujourd'hui, on a un phénomène inverse. On voit bien que dans le drone, aujourd'hui, c'est le monde civil qui l'emporte. On le constate aussi dans d'autres domaines, dans le domaine du spatial.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, le privé commence à concurrencer largement le domaine étatique. Et je pense que ça viendra de plus en plus. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est un exemple où, effectivement, on a été précurseur, mais aujourd'hui, on va chercher sur étagère ce qui se fait de meilleur dans le monde.
Après, il y a les drones, mais il y a aussi les anti-drones, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a des luttes qui se font. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle technologie, il y a une réponse.
Ah.
Et vous êtes aussi sur la lutte anti-drone.
Là aussi, en toute modestie, on a été précurseur du fait, en fait, qu'on était engagé en Afghanistan et que pour brouiller ce qu'on appelait les IED, les moyens explosifs des adversaires, on utilisait des brouilleurs de signaux. Donc c'était des, on les mettait dans des gros véhicules et on brouillait les signaux pour éviter d'avoir
un gros émetteur qui se baladait.
Un gros émetteur en tête de convoi et en queue de convoi, voilà.
Et ça, et en fait, plus rien ne passait là.
Presque, en tout cas, tout ce qui était téléguidé, plus rien ne passait. Tout ce qui était filaire ou tout ce qui était à pression pouvait éventuellement déclencher. Voilà. Et ce même système, en fait, c'est exactement celui qu'on a mis en place pour la lutte anti-drone, quand on a voulu brouiller le signal entre le pilote et le drone. Donc on a utilisé un système de brouilleur qu'on utilise encore aujourd'hui. Voilà. Progressivement, les drones se sont un petit peu ont gagné en autonomie. Donc ils étaient de plus en plus les drones les plus sophistiqués.
Et le problème, c'est qu'ils deviennent autonomes aussi. Eh ben, c'est-à-dire que là maintenant, enfin j'imagine que vous alliez en venir, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de piloter un drone. On lui programme en quelque sorte sa destination et son but, son objectif, et il y va tout seul.
Alors, quand on a la programmation, sans dévoiler tous les secrets, mais quand on a la programmation, on peut brouiller le signal GPS. C'est aussi une autre méthode.
Et voilà. Là, effectivement, sans GPS, un drone, il fait moins le malin.
Alors, sauf que maintenant, le drone, il se guide non plus par GPS, mais il se guide par reconnaissance de points fixes. On va dire, un drone qui se baladerait dans Paris peut se repérer avec une triangulation, Tour Eiffel, Montparnasse, et voilà.
C'est-à-dire que la caméra, grâce à l'intelligence artificielle, va détecter les monuments et se dire, ben voilà, tiens, j'ai même pas besoin de GPS ou même pas besoin de quoi que ce soit, je sais que je vais être à tel endroit parce que je vois la Tour Eiffel,
exactement,
Montparnasse et...
Une triangulation, ça c'est les drones les plus sophistiqués, et on peut imaginer la prochaine étape où il se reconnaîtra uniquement avec une reconnaissance, par exemple, faciale. Et du coup, il va aller cibler directement un adversaire ou un bateau, ou un véhicule avec une plaque d'immatriculation. Tout est envisageable ensuite.
Voilà. Oui, ça doit sans doute déjà exister, ça, non ?
Enfin, ça doit exister peut-être, mais ça doit... après, il y a un coût derrière.
Après, ouais, bien sûr, après, il y a peut-être l'aide des satellites aussi qui vont récolter des données et qui vont les envoyer aux drones, des choses comme ça.
Tout est... on est sur une évolution qui est exponentielle aujourd'hui de la capacité du drone. Et on voit bien en 10-15 ans où on en est aujourd'hui, c'est juste incroyable. Personne n'aurait pu l'imaginer avant.
La lutte anti-drone, pour continuer là-dessus, évidemment, il y a donc le brouillage, mais vous dites que c'est de plus en plus compliqué. Et puis après, il y a des armes qui détruisent les drones.
Je relativise, c'est pas de plus en plus compliqué, parce que quand même 98% des drones, je dis un chiffre comme ça, comme j'aurais pu en dire un autre, mais on peut...
Enfin, l'immense majorité des drones, voilà, vous les brouillez...
On les brouille, voilà, bien
et
sûr.
Ils sont perdus, d'accord, oui. Mais pour certains, et on le voit là avec les récentes attaques de l'Iran face à Israël, on voyait qu'il y avait des espèces de missiles qui partaient pour aller chasser et faire exploser les drones. Vous avez des fusils laser, je crois, c'est ça ?
Il y a des fusils anti-drones, effectivement, qui permettent de se dispenser un petit peu tous les systèmes qu'on a de brouillage. Donc on est vraiment sur du visuel. Après, il y a plein de nouvelles technologies qui ont pu être développées. Après, il faut les mettre en œuvre. Il faut d'abord identifier le drone. Ensuite, savoir s'il est ami ou ennemi, et ensuite le neutraliser. Donc ça fait quand même beaucoup d'étapes en très très peu de temps, parce qu'un drone peut voler potentiellement à 100-150 km/h. Donc il faut aller extrêmement vite pour neutraliser le drone, mais avant il y a toute cette phase de détection et d'identification qui peut être très complexe.
Est-ce qu'il y a des technologies que vous testez qui sont hyper révolutionnaires, qui sont ultra secrètes et qui en fait arriveront peut-être un jour dans le grand public, mais dont on ne soupçonne même pas l'existence? Enfin, je sais que Pascal Samama, qui devait être avec nous ce soir, m'a donné quelques petites questions et m'a parlé d'une technologie ultra secrète c'est peut-être des ondes qui permettraient de voir à travers les murs. Ça existe, ça ?
Alors, on a des systèmes, là aussi, c'est quasi grand public. En tout cas, ça, on le trouve à des salons comme Minipol ou d'autres salons. C'est un système de détection électromagnétique à travers des parois. Ça donne, effectivement, ça envoie des ondes et ça capte le signal qui peut être derrière.
Comme un gros scanner, quoi, en fait.
Comme un gros scanner, exactement. Voilà. Donc ça, il y a un système Raver, par exemple, qui fonctionne plutôt bien. Après, il faut pouvoir l'employer, il faut pouvoir le déployer. Et après, il faut analyser un petit peu le signal. Donc, ce n'est pas non plus miraculeux. On ne le voit pas encore à travers les murs. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas.
Et les technologies bluffantes que j'évoquais, il y a des choses folles sur lesquelles vous travaillez ?
Actuellement, on est plutôt sur une veille de tout ce qui se fait. On a quelques idées, on développe énormément, on a beaucoup d'idées. Vous citiez le drone, mais on a d'autres exemples où le GIGN a vraiment été pionnier dans l'innovation.
Par exemple,
il y a une nacelle aujourd'hui qui permet de récupérer à partir d'un hélicoptère. C'est une sorte de parapluie inversé. On le largue du puits central de l'hélicoptère, ça ouvre un parapluie. Ça a été entièrement développé par le GIGN et breveté par le GIGN. Voilà. Après, il y a des améliorations que l'on fait. Actuellement, on travaille sur sur...
Un exosquelette.
Un exosquelette, merci.
J'ai lu dans vos pensées.
Voilà, mais vous parce que très bien, j'ai dû penser fort. Alors.
Exactement. Mais parce que j'ai le scanner qui analyse votre cerveau, mais chut, il ne faut pas le dire.
Vous avez le temps d'avance qu'il faut, c'est parfait.
Top secret. Voilà. Non, parce qu'on parle d'exosquelette, mais en fait, on va dire l'officier augmenté, le militaire augmenté, c'est quelque chose d'hyper important aujourd'hui.
Oui, les armées.
Et vous avez des choses concrètes qui fonctionnent ou vous étudiez encore tout ça?
On a des choses concrètes qui fonctionnent. Les armées aussi ont beaucoup travaillé là-dessus. Nous, on a développé un exosquelette. Nous, ce qu'on recherchait, c'est aussi un exosquelette entièrement mécanique. Parce qu'il doit être extrêmement rustique, il doit pouvoir être presque aller dans l'eau, donc on voulait un... Et on l'a couplé avec un système de protection balistique. Donc en fait, on a fusionné une technologie balistique avec un industriel, on a, avec le constructeur de l'exosquelette, qu'on a développé l'exosquelette ensemble, et on a mixé un petit peu ces deux technologies. C'est le mixage des deux qui fait un petit peu l'innovation.
Donc ça permet à un humain d'être à la fois... d'avoir une coque robotisée, c'est ça ?
C'est ça. Et de pouvoir porter des charges qui peuvent aller jusqu'à 400 kg dans le temps et sans effort majeur.
Sans effort majeur, tout en ne sentant pas qu'il a une carapace sur lui. Est-ce que ça lui permet d'être plus fort, par exemple, ou c'est simplement pour soulever des charges ?
Ça lui permet d'être plus résistant, notamment s'il faut rester plusieurs heures avec un bouclier, avec et protéger toute une colonne derrière lui. Ça peut être très, très utile. Et ça lui permet surtout d'être très protégé, si jamais ensuite il doit rentrer, protection balistique.
Mon général, on évoque évidemment la technologie au sein du GIGN. Il y a un sujet aussi qui est capital, c'est tout ce qui touche à la cybersécurité. Est-ce que c'est un sujet que vous étudiez, sur lequel vous êtes vigilant aujourd'hui, les cyberattaques, les choses comme ça ?
Alors, oui, on est très vigilant sur les cyberattaques, parce que déjà... la gendarmerie et tous les services étatiques, dont le GIGN bien sûr, peuvent être des cibles. Donc là-dessus, on s'inscrit dans une dynamique de SSI complète. Et après, on apporte aussi notre expertise en gestion de crise de ransomware. Ça aussi, on peut parler d'innovation là aussi. Dans le sens où moi j'estime qu'un ransomware, c'est une prise d'otage de données. Mais après, les techniques de négociation sont les mêmes. Les techniques de gestion de crise, comment monter un PC, les lignes d'opération, etc., sont à peu près les mêmes. Et donc, on apporte notre expertise dans ce domaine-là. J'ai créé du coup une cellule cyber au sein du GIGN pour pouvoir traduire un petit peu les données techniques en les convertir pour nos négociateurs, qui s'acculturent à toute la sémantique et à toute la technique qui va avec des fois des logiques un peu opposées. C'est-à-dire que les spécialistes cyber vont dire il faut tout fermer, il faut mettre des données de ce côté. Et nous, au contraire, on va dire non, mais laissez une petite porte pour pouvoir communiquer, éventuellement lui injecter un petit verre ou un petit cheval ou un truc comme ça. Voilà.
Dernière question, il nous reste une minute, on ne peut pas passer à côté des Jeux Olympiques 2024. Je pense que votre été va être un peu chargé, ça va être difficile de prendre des vacances. Évidemment, toute votre équipe va être sur le pont.
Ah, c'est toutes les forces de sécurité intérieure qui vont être sur le pont, et pas que les forces de sécurité intérieure, c'est tout l'État français qui va être sur le pont. Nous, bien évidemment, on sera aussi très impliqués, puisqu'on sera en réserve d'intervention sur chacun des sites. Donc on y travaille déjà. Sur la cérémonie d'ouverture, avec nos homologues du RAID et de la BRI, on a une maquette commune qui nous permet d'être présents partout là où il faut.
Avec, comme vous le disiez tout à l'heure, des drones, des caméras, enfin il y a énormément de capteurs qui vont être déployés justement pour surveiller ces mouvements de foule durant notamment la cérémonie d'ouverture des JO.
Et on commence aussi, parce qu'il y a des problèmes aussi de coordination, de poste de commandement. On sait par exemple que la 4G risque d'être très fragile le jour de la cérémonie, donc on installe notre propre réseau 4G pour être autonome et pouvoir communiquer en cas de crise majeure.
Et oui, parce qu'il va y avoir tellement de monde que tout le réseau va être saturé, et peut-être même la 5G finalement, donc là vous aurez votre propre réseau à vous qui vous permettra de communiquer normalement.
Comme on le monte sur n'importe quelle crise, puisqu'il faut pouvoir avoir une 4G sur un bateau au fin fond de l'Atlantique. Donc c'est des choses qu'on fait au quotidien sur l'ensemble de nos missions.
Et c'est passionnant. Merci beaucoup, mon général Ghislain Réthy, commandant du GIGN. Voilà comment la défense, la sécurité, tout ce que vous faites est imprégné aujourd'hui de la tech. Et c'était un vrai plaisir que de vous écouter dans Tech & Co.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Passionnant. Ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Demain, ça sera mercredi, 20h-21h30. Vous le savez, votre rendez-vous tech en direct à la radio, à la télé, puis après les replays et les podcasts. Passez une très belle soirée. À demain.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.